Tour avec François Beauregard.
De retour, les situations difficiles que la pandémie a créées dans la société ont amené les gouvernements à intervenir pour essayer de soutenir les milieux communautaires. Mais ces interventions-là du gouvernement ne sont pas réparties de façon égale et ça crée en fait des effets pervers qui ont des ramifications importantes. L'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées demande au gouvernement du Québec de rendre permanente la prime COVID dans les ressources d'hébergement communautaire. Et pour nous en parler, j'ai avec moi Mme Isabelle Tremblay, directrice générale. Bonjour Mme Tremblay.
Bonjour.
C'est vrai que les gouvernements ont voulu aider, mais parfois en aidant, on crée d'autres problèmes.
Disons que l'an dernier, quand la pandémie est arrivée, nous, on a 9 ressources d'hébergement au Québec qui sont gérées par des organismes communautaires qui hébergent 136 personnes handicapées, qui sont quand même des personnes lourdement handicapées, mm-hmm. qui ont besoin d'une disponibilité de service 24 heures, 7 jours par semaine. Alors, ces ressources-là, il y a des préposés aux bénéficiaires qui y travaillent. Et l'an dernier, le gouvernement, avec sa mesure de la prime COVID de 4 $ l'heure pour mm-hmm. les employés du réseau, avait accepté un peu tard, mais quand même rétroactivement, donc c'est une excellente mm-hmm. nouvelle pour nous, d'accorder la prime de 4 $ aux préposés aux bénéficiaires qui travaillent dans ces ressources-là. La problématique qu'on vit présentement, c'est qu'à l'annonce de la levée de l'urgence sanitaire, les préposés qui travaillent dans nos ressources n'auront plus droit à la prime COVID, mm-hmm. ce qui implique pour nous une crainte énorme d'un exode de nos préposés aux bénéficiaires.
Oui, parce que la différence pour le traitement horaire, pour le salaire horaire, là, va être significative entre ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont reçu jusqu'à tout récemment et ce qu'ils ont ou vont recevoir dorénavant. Et l'attrait d'aller travailler et essentiellement faire le même travail ailleurs va être énorme.
Alors, d'autant plus énorme que la prime de 4 $ l'heure, ça va être un écart encore plus grand parce que les préposés aux bénéficiaires qui travaillent dans nos organismes, c'est des personnes qui sont très dévouées à la cause des personnes handicapées et qui ont un salaire moyen mm-hmm. d'environ 17 $ l'heure.
D'accord.
Avec les annonces gouvernementales, le salaire des préposés aux bénéficiaires du réseau, donc qui travaillent dans les CHSLD publics et dans les centres hospitaliers, le salaire horaire est passé à 26 $.
Okay.
Alors, si on enlève la prime et que les préposés de nos ressources redeviennent avec un salaire horaire de 17 $, c'est pratiquement 10 $ de différence l'heure. Mm-hmm. Donc, c'est certain que nous, on a une très grande crainte là, que nos préposés. Écoutez, 10 $ l'heure, c'est énorme.
Ben, c'est beaucoup. Puis, c'est souvent essentiel pour, je dirais, la survie économique de la famille de ces gens-là. Alors, ils ne peuvent pas se permettre de faire un acte de générosité à 9 $ de l'heure pendant tout le temps qu'ils travaillent parce qu'ils aiment davantage le milieu dans lequel ils travaillent plutôt qu'un autre. À un moment donné, ils vont devoir faire des choix.
C'est ça. Puis au-delà du salaire des préposés aux bénéficiaires, parce que nous, à l'Alliance, on n'est pas un syndicat là, qui réclame mm-hmm. un salaire pour une catégorie de travailleurs. Mais on défend, par exemple, ces milieux de vie exceptionnels qui ont été créés mm-hmm. il y a plus de 15 ans, 25 ans, pour être des alternatives à un hébergement en CHSLD pour ces personnes-là qui sont lourdement handicapées. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment préserver ces milieux de vie-là. Et on ne comprend pas pourquoi le gouvernement a transformé la prime COVID en une mesure permanente dans le réseau, c'est-à-dire dans mm-hmm. les CHSLD, dans les milieux hospitaliers, dans les ressources intermédiaires, et a même donné un coup de main aux ressources privées mm-hmm. qui gèrent des CHSLD privés non conventionnés, mais que nos 9 ressources sont laissées à leur sort, et pour nous, ça a un impact considérable. Mm-hmm. Puis on ne comprend pas cette iniquité causée par la décision gouvernementale.
Et parce que 9 ressources, en termes, pour ce qui est de la taille de tout le système, ce n'est pas énorme. Alors, c'est pas comme quoi c'est par manque d'argent. Là. On parle de combien d'employés ici?
Bien, on parle de quelques employés uniquement par ressource. Des fois, mm-hmm. ça peut être 3 employés qui hébergent, qui travaillent auprès de 24 personnes, d'accord. mais qui leur permettent d'être, de pas vivre en CHSLD. On a fait l'étude de financièrement pour exprimer au ministère de la Santé nos besoins suite à leur demande. Et cette prime-là, dans les 9 ressources, représente 900 000 $ par année, comparativement à 12 millions que ça coûterait au gouvernement pour héberger, transférer ces personnes-là en CHSLD.
Ailleurs, oui.
Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que le CHSLD pour ces personnes-là.
Et ce ne serait pas non plus un milieu de vie qui serait plus, plus adapté ou plus agréable ou plus adéquat pour la personne qui va s'y retrouver non plus.
Alors, Écoute, on a des jeunes là, personnes là, qui sont hébergées. Ça commence à 19 ans, là, des jeunes personnes qui sont handicapées dans ces ressources-là. Il y en a qui ont... La moyenne d'âge est de 46 ans. Donc, à 46 ans, aller vivre dans un CHSLD, vous savez, c'est peut-être pas la meilleure ressource pour les personnes âgées, alors encore moins pour des jeunes personnes handicapées.
Oui, tout à fait. Et en fait, bon, il y a plutôt une problématique d'essayer de réduire ou d'éliminer le fait que des personnes qui vivent avec une situation d'handicap assez lourde se retrouvent en CHSLD. Alors, de pousser indirectement les bénéficiaires qui se retrouvent dans les ressources de votre regroupement vers les CHSLD, c'est un peu comme ramer à l'envers. Comment est-ce que l'Alliance est née? Comment est-ce que vous avez ces ressources-là ont décidé de se regrouper justement pour défendre leurs intérêts et les droits de leurs bénéficiaires?
Dans le fond, c'est que quand la pandémie est arrivée, c'est qu'on a fait quand même quelques démarches auprès du ministère de la Santé qui nous a dit, ben, dites-nous, il y a combien de ressources qui existent au Québec qui hébergent, qui ont vraiment comme mission principale l'hébergement des personnes lourdement handicapées et qui embauchaient effectivement des préposés aux bénéficiaires parce qu'il y a d'autres ressources qui n'embauchent pas de préposés. Celles-là, on n'en parle pas, là. Alors, c'est comme ça qu'on a fait l'inventaire parce que nous, à la CRIF, on est présents sur tout le territoire québécois. Donc, on a fait une enquête auprès de nos membres et puis ces 9 ressources-là sont ressorties. Si vous saviez le nombre d'actions, d'interventions publiques, politiques là, qu'on fait depuis le mois de mai, parce que déjà au mois de mai, on nous a avisé que lors de la levée de l'urgence sanitaire, la prime COVID ne serait plus versée dans nos ressources. On a fait énormément de démarches. On s'est fait promener d'un ministre à l'autre, de ministre au ministère. Et le 20 septembre, on a reçu vraiment une fin de non-recevoir à l'effet que la prime ne serait pas transformée en mesure permanente.
Mais cette fin-là était-elle accompagnée d'une avenue de solution en disant si vous corrigez ceci ou cela ou à telle condition, on pourrait y repenser? Ou une explication de pourquoi la réponse fut si nette?
Disons que les réponses qu'on nous a données nous ont amené à circuler dans la spirale de l'enfer qu'on appelle parce que, dans le fond, ce que le ministère nous disait, c'est la responsabilité des établissements, des CIUS et des CIUS, de financer ces organismes-là.
D'accord.
Donc, là, on s'est adressé aux CIS et aux CIUS et eux nous ont dit « Non, nous, on n'a pas plus d'argent, il faut vous adresser au ministère. » Donc, on est retourné au ministère. Rendu au ministère, on nous a dit « Ben nous, on n'a pas plus d'argent de nos établissements, donc il faut vous adresser aux ministres qui donnent, qui ont le coffre au trésor. »
Oui, oui. Ça vient d'une volonté politique pour que on puisse prévoir dans le budget que cette ressource-là soit maintenue.
Oui, mais 136 personnes, là, pour nous, c'est énorme. Là. C'est, et ce qu'on craint aussi, c'est qu'il y a des personnes qui nous ont dit dans leur témoignage, « Moi, m'en aller en CHSLD, je préfère mourir. Je voudrais demander l'aide médicale à mourir. » Donc, on ne voudrait pas que le gouvernement agisse uniquement s'il arrive un événement malheureux dans l'une de ces ressources-là. Puis c'est ce qu'on craint. Parce que quand on a fait notre état de situation au ministère au mois de juillet de cette année, là, suite à leur demande, on leur a dit tout le stress vécu. On a sondé les gens. Le stress vécu par les personnes, par les familles, à cause de la situation, c'est énorme. Là. C'est vraiment difficile pour les gens et on ne comprend pas pourquoi on n'a pas l'écoute et on n'a pas la solution. Pourquoi le gouvernement crée 2 catégories de préposés aux bénéficiaires, celles qui travaillent auprès des...
Parce que en termes de tâches, d'intervention auprès du bénéficiaire, c'est la même chose.
Est-ce que absolument. Puis nous, on ne peut pas couper aussi. Il y a des établissements qui ont proposé, envoyer les personnes qui sont plus lourdement handicapées en CHSLD.
Oui,
alors,
oui. Ben...
Comment sacrifier des gens comme ça? Parce que c'est ce qu'on nous demande, de faire des sacrifices. Mm-hmm.
Est-ce que la prime a disparu maintenant depuis combien de temps?
La prime va disparaître
D'accord.
lors de la levée de l'urgence sanitaire. Et
okay.
ça nous met un stress parce que...
On ne sait pas quand ça va arriver. Oui, je peux comprendre. Tout à fait.
Non. On ne sait pas quand ça va arriver, mais on...
Quand ça va arriver, ça va probablement débouler assez vite pour des raisons économiques évidentes que les préposés aux bénéficiaires vont elles-mêmes ou eux-mêmes vivre.
Absolument. Et puis financièrement, les organismes communautaires n'ont pas les moyens d'assurer la continuité de la prime. Et puis on sait déjà qu'il y a un des organismes qui va probablement fermer ses portes au mois de mars. Et ça veut dire 24 ambulances qui vont être à la porte pour relocaliser ces personnes-là. C'est épouvantable. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas l'écoute du gouvernement pour ces personnes-là.
Est-ce que vous avez un autre moyen d'action, quelque chose d'autre que vous pouvez faire à ce stade-ci? Faire un coup d'éclat médiatique? Parce que là, vraiment, vous avez utilisé toutes les voies normales, si je peux dire. Il vous reste plus qu'à faire un sit-in ou un coup d'éclat, là, ou quelque chose là, qui va attirer sur vous l'attention du public.
Écoutez, le 3 décembre dernier, c'était la Journée internationale des personnes handicapées. Alors nous, on s'est dit, au lendemain de cette journée-là, on va publier dans Le Devoir un message au premier ministre François Legault, parce qu'on sait qu'au niveau de nos ministres, au niveau de nos établissements, ça ne fonctionne pas, notre dossier n'est pas réglé. Donc, on a fait un message à M. François Legault. Alors moi, j'ai été en alerte toute la fin de semaine sur mon cellulaire pour attendre l'appel de M. Legault, mais ça n'a pas été le cas. Mm-hmm. Et on demande une rencontre au cabinet de M. Legault depuis plusieurs semaines et on ne nous donne pas cette rencontre-là. Donc, comme on a quatre ministres, les deux à la santé, Lionel Cazan et Dubé, et la ministre, la responsable du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, et M. Jean Boulet, qui ne répondent pas à nos demandes, bien, on est rendu vraiment à François Legault.
Oui, vous êtes rendu.
Écoutez, on n'ira pas bloquer un pont. Là,
non, je comprends. Mais ça va être important de continuer à faire parler de vous. Alors, on espère que vos démarches vont aboutir. Parce que c'est épargner 900 000 $ pour en repayer 12 millions de l'autre côté pour offrir un service d'une qualité qui pourrait ne pas être la même aux mêmes bénéficiaires, ça ne me semble pas être une très bonne équation. Alors, il n'y a pas de logique tout à fait là-dedans.
Bon, il faut penser à la qualité de vie de ces personnes.
Exactement, non? Tout à fait. Puis après ça, comme vous dites, le stress que les personnes elles-mêmes et leurs familles peuvent vivre parce qu'ils ne savent pas à quel moment tout ça va leur sauter au visage. Bien, Madame Tremblay, je vous remercie beaucoup. Madame Isabelle Tremblay, directrice générale de l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué la problématique et on va suivre ça de très près. Merci.
Merci beaucoup.